chez Enviro-Connexion. Nous sommes fiers de nos employés et nous serions heureux de t'accueillir dans notre grande famille. Nous sommes leaders de la gestion de matières résiduelles et nous avons des postes à combler de conducteurs classe 1 et 3, opérateurs, mécaniciens et même journaliers et éboueurs dans nos différents terminaux. Le choix, tu en as chez Enviro-Connexion. On t'invite à venir parler avec nos équipes de recrutement lors de notre grande journée porte ouverte dans une région près de chez toi, le samedi 30 avril entre 9h et 14h. À Granby, chez Sani Eco au 530 rue Édouard. À Sherbrooke, chez Sani Estrie au 405 Rodolphe Racine. À Boisbriand, chez Enviro Connexion au 4141 Grande Allée. À Belleuil, au 1205 rue Louis Marchand. Et à notre terminal de Laval, au 4799 rue Bernard Lefebvre. Seulement des postes d'éboueurs sont disponibles en ce moment. Impossible de t'y rendre? Pas de problème. Visite notre site maroute.ca ou communique avec Annie au 438-221-8733. Au 438-221-8733. Enviro Connexion. Ma route, mon succès.
Le show à l'évêque.
Le show à l'évêque.
Avec Stéphane Lévesque.
Stéphane Lévesque.
Stéphane Lévesque analyse l'actualité avec vous.
Avec vous.
Truck Stop Québec.
Bonjour, ici Stéphane Lévesque et vous regardez Québec Crime. Aujourd'hui, on a une émission, moi... Bon, évidemment, toutes les thématiques m'intéressent. Moi, le crime, pas que j'aime le crime, loin de là, mais comme toi d'ailleurs, c'est un sujet qui nous intéresse. Mm-hmm. Mais celui-là m'intéresse particulièrement, mm-hmm. c'est les affaires non résolues. Oui. Les affaires non résolues, donc, il y a eu crime. Dans notre cas ici, aujourd'hui, mm-hmm. ça va être des meurtres.
Oui.
Mais des meurtres où il n'y a jamais personne qui a été identifié.
Identifié ou condamné dans un verdict dans le cadre d'un tribunal.
Okay. Ça, c'est... Et tu nous as sélectionné, justement, quelques mm-hmm. histoires, évidemment, oui. qui datent dans le temps. Mm-hmm. Et ça, c'est volontaire de ta part.
Oui.
Pourquoi qu'on va reculer au même au début du 20e siècle? Pourquoi mm-hmm. tu as fait ce choix-là dans la sélection des choix, des cas?
Oui, pourquoi? Premièrement, parce que l'histoire a beaucoup de choses à nous apprendre. Puis des fois, c'est bon de retourner dans notre passé pour comprendre notre présent, pour différentes raisons. Aussi parce que depuis plusieurs années, puis là, je ne parle pas juste au niveau du Québec, là, c'est au niveau du monde occidental, pratiquement, les États-Unis, en Europe aussi, il y a beaucoup de documentaires qui se font sur les cas non résolus.
Comme on pourrait dire, c'est à la mode.
C'est ça.
Et c'est voilà. Trendy, il y a beaucoup de gens.
Puis je dis documentaire, mais c'est des documents. Tu sais, ça ouais. peut être sous forme écrite, ça peut être sous forme télévisée, ça peut être sous forme de balado. Ça peut être sous forme aussi de réseaux sociaux. Il y a des chercheurs, des fouineurs, pratiquement. Il y a différents degrés là-dedans.
Hein? Parce que là, tu sors du thème fouineur, c'est péjoratif. C'est pas positif, ce terme-là.
Non.
Parce que tu as identifié, toi, un syndrome.
Oui.
T'es pas médecin, là.
Non.
Mais tu as identifié un syndrome que tu appelles le syndrome Jack l'Éventreur.
Oui. Pourquoi je l'appelle le syndrome Jack l'Éventreur? C'est parce qu'il y a sûrement certains lecteurs ou des habitués de librairie, de bibliothèque qui ont remarqué que... De façon cyclique, il y a des livres qui sortent sur Jack l'Éventreur. Moi, j'en ai lu un qui a sorti, je pense, en 92-93, un monsieur qui prétendait qu'il avait acheté dans un marché aux puces un journal intime qui avait été écrit de la main de Jack l'Éventreur. Puis c'est vraiment, quand on lit le livre, c'est vraiment troublant. Ça peut correspondre à certaines lettres qui avaient été écrites par le véritable Jack l'Éventreur, là, mais on ne sait même pas encore là, si les lettres qui étaient écrites à l'époque, ça n'avait pas été écrites par un journaliste.
Ouais. Ça a été déterminé, mais il y en aurait une, apparemment, qui est vraiment de la main de Jack l'Éventreur, mais encore
ouais,
là...
Oui, c'est ça.
On est en 2019, puis là, on parle d'une histoire qui s'est dépassée là, des
ouais, en 1888, là.
Les témoins ouais. oculaires, les témoins d'époque, ils sont dans un autre monde.
Les os leur font plus mal, comme on
oui,
dit.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Mais c'est ça, le syndrome, c'est que de façon cyclique, jusqu'en 2016, d'ailleurs, le dernier en liste, là, si on peut dire, lui a sorti un livre pour expliquer sa propre théorie. Puis souvent, c'est un suspect différent. Écoute, je suis en train d'en terminer un actuellement. Là, ça repose sur rien. Les arguments sont vraiment pas solides. Là, fait qu'on voit qu'il y a différents degrés dans ceux qui s'improvisent enquêteurs. Mm. Parce que les auteurs de ces livres-là ne sont pas issus du monde policier ou de la justice. Il faut faire très attention à leurs sources.
T'sais. C'est des fans, on pourrait dire.
C'est ça.
Ce qui n'est pas mauvais, mais...
Bien, il y a un terme qui existe en anglais, c'est « reaperologue ».
Oui.
En français, on dit éventrologue. Oui, ça, c'est les spécialistes de Jack l'Éventreur, vraiment.
Bien, spécialistes, on va mettre des guillemets. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'université qui donne un baccalauréat.
Mais j'ai rarement vu là-dedans. Puis là, je continue à chercher encore, mais de façon vraiment à côté, à temps perdu. Là. Il n'existe pas de livre scientifique, on refait l'histoire des victimes de façon objective, juste l'histoire. Il faut toujours que ça finisse par un suspect potentiel. Ah. Dire, ben moi, je crois que c'est lui, moi, je crois. Ouais. Il n'y a pas de livre qui existe juste pour
relater à partir des archives de la police qui sont disponibles.
Ils sont disponibles depuis, je pense, 92. Là.
Et juste pour nous mettre en contexte, parce que, bon, Jack l'Éventreur, beaucoup de films, beaucoup de choses, c'est dans le fond, il y a eu un tueur en série.
Oui.
Le premier. Il y en a eu dans l'histoire, mais on va comme le qualifier de cette façon-là.
Le premier documentable, si on peut dire.
Qui va faire des victimes, des femmes dans un quartier pauvre de Londres.
Oui, dans le Whitechapel.
Essentiellement des femmes qui exerçaient
la prostitution. Il y avait 5 victimes. Selon les auteurs, ça varie aussi. Il y en a qui vont à plus de victimes, tout ça. Mais les 5 victimes canoniques, là.
Oui, on appelait ça,
sacré.
Oui.
Mais c'est ça, c'est 5 victimes. Puis assez rapproché, je pense, c'est de fin août 1888. La dernière, c'est le 8 ou le 9 novembre 1888.
Parce que, évidemment, dans ton approche, qu'est-ce qu'on va de ce dont on va parler, c'est à partir des archives que tu as constituées.
C'est ça, parce
qu'on ne fera pas les gérants d'estrade. Bien là, j'entends dire que. Puis tout ça. Cependant. Je vais vous permettre de révéler certaines informations. On a déjà parlé lors de la première émission de l'article que j'avais écrit sur la fillette qui avait été enlevée et assassinée à Drummondville, Mélanie Decamp. Et dans le cadre de l'enquête que j'avais faite, pas policière, mais journalistique, j'avais rencontré, moi, des anciens enquêteurs sur le dossier, Michel Beaudoin et Jean-Paul Prince. Jean-Paul Prince, je ne sais pas si tu le connais, mais si un jour tu as la chance de discuter...
Beaudoin, je l'ai croisé à un moment donné. Ouais.
C'est des gars très fascinants. Michel, je l'ai vu justement cette semaine attablé dans un restaurant à Saint-Pierre-les-Béquets. Par hasard, je jasais avec, c'était très intéressant. Mais Jean-Paul Prince, entre autres, c'est lui qui a recueilli la confession de Michel Derry. Parce que si on se rappelle de ce cas-là, qui n'est pas un cas non résolu, mais on va y venir. Il y a un cas non résolu relié à cette affaire-là. Il faisait du pouce à Trois-Rivières, Michel. Et Jean-Paul Prince revenait d'une enquête à Louisville sur un meurtre. Puis il l'avait pris sur le pouce. Puis lui, il avait vu ce gars-là. Parce que lorsqu'il y a eu l'enquête sur Mélanie Decamp, Michel Derry était au poste de police à un moment donné pour un vol de véhicule. Fait qu'il avait comme allumé, puis il commence à jaser avec, tout ça. Et en parlant avec lui durant le trajet, parce qu'il dit, je vais te ramener à Drummondville, tu sais. Michel, il dit, ben oui, je vais embarquer. Fait qu'en ramenant à Drummondville, ben c'est là qu'il s'est comme confessé. Jean-Paul Prince, c'est un homme qui est très fascinant. Puis Michel Derry, on m'a rapporté, moi, que Michel Derry, à la sortie du véhicule, aurait dit à Jean-Paul Prince, vous êtes le père que j'aurais aimé avoir. Parce que le cas Michel Derry, peut-être qu'on s'y intéressera, mais c'est un cas dramatique à plein point de vue, entre autres dans l'enfance de Michel Derry. Il a été victime de maltraitance assez sévère. Donc, mais en jasant avec Jean-Paul Prince puis Michel Beaudoin, parce qu'évidemment, lorsqu'ils ont arrêté Michel Derry, ils ont interrogé Michel Derry sur le cas Mélanie Decamp, mais aussi sur d'autres disparitions d'enfants. Et en parlant avec lui à la prison de Sherbrooke à ce moment-là, il aurait confessé un autre meurtre. Il a confessé un autre meurtre. Un meurtre qui s'était passé, une disparition d'enfant, en 1972, à Saint-Hubert. Fait que là, on est loin de Drummondville, on est loin de Saint-Léonard d'Aston, parce que Michel Derry est resté à Saint-Léonard d'Aston. Puis, pour information, j'en fais pas une gloire, mais moi, je l'ai connu, Michel Derry. Je l'ai connu pas personnellement,
non, mais
il est venu quelques fois chez moi. Et ma mère nous rappelait toujours, il a jamais été tout seul avec vous autres. À ce moment-là, on ne savait pas. Parce que moi, dans les fins des années 70, début 80, on ne savait pas que c'était un meurtrier. Mais quand l'histoire est sortie, la médiatisation de ce cas-là dramatique, évidemment, ben là, on a commencé à avoir peur par après. Mais c'est ça. Jean-Paul Prince et Michel vont me révéler, moi, qu'il est relié à un autre meurtre. Parce qu'en 1972, il demeurait à cette époque-là dans le secteur Longueuil-Saint-Hubert avec ses parents. Il était jeune, adolescent. Mais comment ils vont faire pour l'identifier à ce meurtre-là, c'est qu'on n'est pas des spécialistes des enquêtes.
Non.
Mais on sait que les policiers ont parfois des trucs.
ouais.
des trucs. Il y a des informations dans une enquête qui ne sont pas révélées au public. On ne les voit pas dans les journaux, mm-hmm. on ne les voit pas dans la télévision. Mm-hmm. Parce que Michel Derry, par exemple, prenons son cas, c'est quelqu'un qui avait des déficiences, une déficience intellectuelle.
Ouais, ouais.
C'était très limité.
Il y avait un bout d'entrevue qui avait passé, que j'ai vu à un moment donné, oui. là, qui avait accordé, je pense, à un prêtre ou quelque
oui,
chose comme
parce
ça.
Que dans le déroulement de l'enquête, uh-huh. il va participer à la recherche de Mélanie Dequette.
Oui, c'est ça.
Puis il va le dire, ouais. entre autres, qu'il y a une vidéo qui existe où il dit ben, « je participe tout de suite. »
Je me rappelle de ça. Moi, j'étais tout jeune, ouais, en 80. C'était en 83. Hein?
Oui, 1983, 83. L'été 1983.
Je visitais le village d'antan avec mes parents dans ce temps-là. Écoute, ah. c'est l'année de mes 12 ans.
Oui, oui.
Mais je me souviens, il y avait un hélicoptère qui circulait, puis on se disait, nous autres, en naïf, là, dans le ouais. fond, on se disait, « Hey, c'est plate, hein? On visite un village d'antan, puis on entend l'hélicoptère, ouais. c'est pas trop. » Mais en rentrant chez nous le soir, on a compris, on s'est
on
dit,
« On compris, oh, okay. parce qu'il y avait une grosse mobilisation ouais. à cette époque-là. Donc, Michel Derry, évidemment, bon, déficience intellectuelle, moi, puis toi, on le rencontre. « Hey, Michel, c'est-tu toi le cas de la petite Chantal Mongaillard à Saint-Hubert? » Bien, ça se pourrait que pour se rendre intéressant, ils disent ouais. « Oui ». Ça, mais tu sais, oui, oui, Michel, mais
ouais,
tu vois vraiment. Et entre autres, Jean-Paul Prince, moi, lorsque je l'ai interviewé dans la rédaction de cet article-là, il m'a révélé qu'ils savaient, eux, la couleur des sous-vêtements de la petite fille au moment de sa disparition.
Okay.
Et Michel Derry savait la couleur des sous-vêtements. Et ce cas-là, étrangement, ressemble beaucoup à Mélanie Dequette. Petite fille, fillette,
okay.
attachée à un arbre.
Okay.
Peut présumer des sévices sexuels aussi.
Okay.
Donc, c'est une histoire. Et de par la bande, évidemment, moi, j'ai pas accès à des archives, quoi que je pourrais,
ouais.
comme toi,
ouais.
mais c'est pas archivé, mais okay. j'ai eu écho que ce cas-là intéresserait en ce moment la Sûreté du Québec.
Okay.
Peut-être qu'au moment de la diffusion de l'émission, ça va être réglé.
Ouais.
Mais apparemment que les cold cases de la Sûreté du Québec seraient à refaire okay. cette... Parce qu'il est interné depuis ce temps-là, Michel Derry.
En ce moment, il l'est
oui,
encore?
Toujours okay. à l'Institut Pinel.
Okay.
Et évidemment, ce cas-là avait créé des remous parce qu'on disait, ben, tu sais, l'aliénation mentale. Il était acquitté pour aliénation mentale. Et les gens que j'ai interviewés dans ce cas-là disaient tous, comment? Assez fou pour mettre le feu, pas assez fou pour l'éteindre. C'était comme, il était comme entre les deux,
okay.
Les gens, les psychiatres qui ont témoigné tout ça. C'est ouais. quelqu'un qui était limité, mais est-ce qu'il était conscient ou non? Mais c'est, puis je vais ouais. employer le mot drôle, il n'y a rien de drôle là-dedans, mais il est, le fait qu'il ait été déclaré non coupable pour aliénation mentale, le cas, ça fait quoi, 35-40 ans?
Ouais.
Il est toujours interné.
Ouais, c'est ça.
Et on peut présumer que s'il avait été reconnu coupable, il serait libre aujourd'hui. Ça peut être étonnant.
C'est ça.
Ça peut être étonnant.
Parce qu'il y a une différence. Que... J'avais lu ça dans le livre du spécialiste des tueurs en série français, là, Stéphane Bourgoin.
Oui.
Que lui, il a fait énormément de recherches. Hein. C'est une,
oui,
une
oui.
référence sur deux pattes. Là.
Il y a beaucoup de livres, de documentaires
oui.
aussi. C'est un gars
puis,
fascinant. Ouais.
En lisant certains de certaines de ces choses, j'avais compris un peu, comme je crois, là je vais m'avancer un peu, dans la région de Boston, aux États-Unis, si quelqu'un est déclaré coupable, pas coupable, mais inapte à subir son procès pour aliénation mentale, il s'en va en institut jusqu'à temps qu'il soit considéré comme guéri. Un coup qu'il est guéri, il retourne faire son temps.
Ah!
Ici, c'est pas ça.
Non, non.
C'est que, bon, on pourra même faire référence à l'affaire Guy Turcotte, plus récent, qu'il y en a qui pourraient comprendre. C'est que, dans le premier procès, c'était ça, il avait été déclaré inapte. Il s'en allait en institut jusqu'à temps qu'il soit guéri. Mais si, au bout de deux ans, il est guéri, il s'en va en liberté, après, il ne retourne pas faire le restant de sa peine.
Ouais,
tu sais,
ouais.
C'est la différence qu'il y a ouais. ici. Là.
Il y a des différences entre les deux systèmes.
Ouais.
Évidemment, donc, une grande parenthèse pour dire que ça, c'est un meurtre non résolu, mais
ouais.
qu'il ne le serait plus dans le
ouais,
fond.
Oui, c'est ça.
Évidemment, c'est sous toute réserve.
C'est ça.
C'est des informations, moi, confidentielles auxquelles j'ai eu accès.
Ouais.
Parce que des fois, tu entends des choses à travers les branches, tu valides, tout ça. Donc, uh-huh. ce qu'on peut dire, c'est que ce meurtre-là non résolu de la petite Chantal Mondegaillard
uh-huh.
serait bientôt un meurtre qui serait résolu.
OK.
Donc, ça serait... Ben, comme je l'avais dit dans l'article,
ouais, ouais, ouais.
via ce que Jean-Paul Prince et Michel Beaudoin
okay.
m'ont dit,
okay.
c'est Michel Derry qui est le meurtrier de
okay.
cette petite fillette-là. Donc, tu vas nous parler maintenant, on referme cette parenthèse,
ouais.
hein, tu vas nous parler, juste en introduction, l'affaire Slater.
Oui, l'affaire Slater, là, on remonte à un peu plus loin. Là.
Oui,
ça, c'est, hein?
on n'est pas les années 80.
Non, là, ça, c'est historique, vraiment. On remonte à l'époque, on disait la Haute-Mauricie, mais c'est à Grand-Anse.
OK, finalement. Sur le bord du Saint-Maurice.
Oui, c'est ça, exactement.
Et on est en 1905, le 5 mars.
Oui, le 5 mars 1905, c'est une période, lui, M. Slater, il tenait une auberge.
Ah, c'est un aubergiste.
Oui, un aubergiste. Ah. Mais à cette époque-là de l'année, les bûcherons, lui, avait il recevait beaucoup de bûcherons et tout ça. Puis c'était un temps mort un peu, là, mm-hmm. à cette époque-là. Fait que dans son auberge, il n'y avait pas beaucoup de monde ce soir-là. Il y avait un de ses pensionnaires, Arthur Chandonnet. Il y avait Wallace McCree, des noms à retenir parce qu'on va les revoir après. Il y avait sa femme, il y avait les enfants aussi, mais on n'en parle pas vraiment dans le procès, là. Sa femme, qui s'appelait Mary Annie Skeen, mm-hmm. qui avait des origines autochtones. On ne sait pas de quelle nation exactement. Puis il y avait sa belle-sœur Ursule Duchesne Skeen, qui, elle, avait marié un des frères à...
Donc, on retient ces noms-là, ouais, puis après la pause, on revient avec Parfait. L'histoire de M. Percy Slater.
Ouais.
Donc, l'affaire Slater, mm-hmm. on a un homme, un aubergiste, 37 ans, Grand-Anse.
Ouais.
Et là, il s'en va sortir ses chevaux
parce que
son employé est ivre, le monsieur McCree.
Monsieur McCree, qui était quand même dans la jeune vingtaine, était apparemment très ivre ce soir-là, mais ça avait quand même bu beaucoup au cours de l'après-midi, fait qu'on soupçonne que Slater avait un petit verre dans le nez, lui aussi.
OK.
Mais à un certain moment, il se dit « bon, c'est ça, ma frère, puis... » Il a lancé quelques boutades aussi. Donc, il dit, c'est moi qui vais aller nourrir mes chevaux, puis ta. Fait qu'il est allé un peu en bougonnant. Fait qu'il sort, l'écurie, je pense qu'il était à peu près à 150-200 pieds. Ça avait été calculé même pendant le procès. Il y a quelqu'un qui avait dressé un plan précis. Fait qu'il va nourrir ses chevaux, puis après un certain temps, on reviendra sur les heures tantôt, parce qu'il y a des contradictions là-dedans. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour raconter cette partie-là, on dépend vraiment des seules personnes qui étaient présentes. Donc, c'est tous des témoins, puis c'était pratiquement tous des suspects.
Ah!
Fait que ça regarde mal un petit peu.
Mais c'est pas des inventions d'Éric Veillette, ça. Là.
Non. Ça vient du procès.
Ça vient du procès, ouais, okay.
Du dossier d'archives. Voilà, fait que c'est ça. Il s'en va. Après un certain temps, sa femme dit qu'elle s'inquiète.
Mary Annie Skeen.
Et voilà. Et puis là, elle demande à sa belle-sœur, Ursule Duchesne Skeen, d'aller voir. Elle refuse. En tout cas, il y a un petit délai aussi qui se fait qu'ils ne veulent pas aller voir. Ils ont peur, puis bon. Fait qu'ils réussissent à réveiller, malgré son état avancé d'ivresse, ils réussissent à réveiller Wallace McCree, qui, lui, va voir. Il sort par la porte d'en avant, mais il revient par la porte d'en arrière quelques minutes plus tard. Pourquoi? On ne le sait pas, mais c'est des éléments, je pense, qui peuvent quand même nous aider à comprendre un peu. McCree revient, puis là, un peu en panique, en disant que Slater est décédé.
Okay.
Il a été décédé, on va accélérer peut-être un petit peu. Il a été tiré dans le dos par un revolver qui est retrouvé sur place dans l'écurie. Un revolver de calibre 44.
OK.
Et puis à partir de là, s'enclenche. L'arrestation de McCree se fait assez rapidement parce qu'il faut dire qu'il n'y avait pas de policier à Grand-Anse. Donc ça a pris un policier de Trois-Rivières qui a fait le chemin jusqu'à Grand-Anse. Quand il a tombé sur McCree, il l'a arrêté tout de suite parce qu'il était déjà désigné comme suspect pour surtout l'enquête de coroner qui s'est déroulée, elle, au pile.
Oui.
Et puis, en chemin aussi, on ne sait pas trop pourquoi, par contre, il a arrêté aussi Arthur Chandonnet, qui était dans l'auberge ce soir-là. Puis là, il va y avoir une controverse un petit peu plus tard que Arthur Chandonnet a quitté l'auberge un petit peu avant ou après Slater.
Et le policier de Trois-Rivières que tu parles, là, c'est M. McCree. Caskill, c'est bien ça?
Non,
ça vient plus tard, ça.
Oui, c'est ça. Le policier de Trois-Rivières, c'était un Théodule Beaulieu.
Ah!
Oui. Je vais y revenir un petit peu plus tard parce qu'il y avait il y a eu un scandale durant son témoignage au procès.
Okay.
Mais là, tout ce beau monde-là est amené au pile pour l'enquête de coroner. Madame Skeen, la veuve de Slater, fait une première déclaration. Tout bonnement, pour expliquer ce qui s'est passé, puis tout ça, mais elle désigne personne. McCaskill, lui, Kenneth Peter McCaskill, c'est un enquêteur de la police provinciale, la PP, comme on disait dans le temps. Lui, il descend de Montréal, il arrive là, il demande à passer une heure tout seul dans une pièce avec Mme Slater, la veuve. Et puis là, tout change. Vraiment, tout change. Dans les archives de BNQ, on a vraiment les deux déclarations. La déclaration, la première que Mme Slater a faite, et la deuxième après la rencontre de McCaskill. Et là, tout change. Elle avoue que c'est elle qui a procuré l'arme, parce que l'arme, en tant que telle, appartenait à Slater, okay. Le revolver. Mais c'est elle, selon tous les témoins qu'il y avait là, elle, Mme la veuve, était seule à connaître la cachette du revolver parce qu'elle ne voulait pas que son mari était un petit peu dangereux. Peut-être, il y a peut-être un peu de violence conjugale dans
OK,
ça.
Fait que boisson, auberge, ouais, l'époque aussi.
Oui.
Mais là, notre monsieur McCaskill, c'est comme un Colombo de la police, ouais, de l'époque.
Exactement.
C'est une vedette, c'est une star. Parce qu'il a, lui, a fait avouer quelqu'un qui a passé à l'histoire.
Oui, il a fait avouer Cordelia Vio. Quelques années auparavant.
Okay.
On parlait dans la première émission, Maître Fortin, qui s'est intéressé à cette affaire-là. Il a fait ressortir des choses. Puis lui aussi, un peu, les circonstances, ça ressemble un peu. On ne sait pas dans quelles conditions qu'il a réussi à obtenir les aveux. Mais tu sais, est-ce que c'est par violence, par menace? Même à cette époque-là, il fallait quand même lire les droits. Uh-huh. Tu sais, vous avez le droit de garder le silence, bon, tout ça. Il fallait quand même le faire. Est-ce qu'il l'a fait? En le procès, il dit que oui. Mais pourquoi en une heure, un changement de situation comme ça? Ça se peut que la veuve ait craqué.
Oui, mais on peut présumer qu'il était moins déontologique à cette époque-là qu'aujourd'hui.
Voilà.
Usage de violence ou menace.
Violence verbale, exemple.
Il débarque, lui, là, madame.
C'est ça. Sinon, vous allez en prison. Ouais. Non, c'est sûr qu'on spécule, mais c'est quand même douteux.
Il y a comme un changement. Il y a eu le coroner, là, il a dit « c'est pas moi », tout ça.
C'est
puis
ça.
Là, le CL.
C'est ça. Okay. Et voilà.
Fait que là, la suite.
La suite, c'est qu'elle est amenée à Trois-Rivières, là, sous bonne escorte.
Oui.
À elle, on lui donne le droit d'enterrer son mari, d'assister aux funérailles et tout ça. Et ensuite, au lieu d'aller en prison, ça, je ne peux pas l'expliquer, parce que la prison de Trois-Rivières, apparemment, accueillait autant les femmes que les hommes.
Oui, c'est vrai.
Mais elle n'y va pas. Elle va être sous la garde de notre fameux policier Théodule Beaulieu, qui, lui, pendant le procès, là, je vais révéler un petit punch à l'avance, là, mais lui, pendant le procès, pendant qu'il va être interrogé, la défense va réussir à démontrer qu'il avait déjà été accusé pour des abus sexuels sur des jeunes filles.
Ah oui?
Ouais. Fait que ça nuit beaucoup à l'accusation dans le procès.
Mais là je suis en train de regarder tes notes, là, mm-hmm, parce que j'ai de l'intelligent de même, là, parce qu'Éric Veillette m'a aidé. Lui, il était intelligent. Moi, j'y passe la ronde.
J'ai juste fouillé.
C'est un bon fouilleux. Hein, on l'a déterminé. Là, il est confié à la garde de Théodore Beaulieu.
Elle, la veuve.
La veuve.
Ouais.
Il la garde chez lui.
Il la garde chez lui. C'est curieux, là. C'est même arrivé dans le cas de Blanche Garneau, qu'on va parler un peu plus tard.
Ouais.
Un policier provincial qui a gardé un suspect très sérieux pendant quelques jours chez lui, pendant que sa femme y vivait normalement. On se demande, là, qu'est-ce qui manquait-tu de prison ou de barreau, je ne sais pas. Là. Ouais. Pendant ce temps-là, McCree, lui, est vraiment enfermé à la prison de Trois-Rivières.
Ça, c'est notre suspect identifié.
Ouais.
Mais là, il y en a notre madame aussi qui...
Oui, la madame, elle serait complice parce que surtout, le gros point, c'est qu'elle était la seule à connaître l'emplacement du revolver. Fait que, est-ce qu'elle l'a... dans ses aveux, c'est ça qu'elle a dit, c'est qu'elle a donné le revolver à McCree pour qu'il puisse...
Mais là, McCree puis la dame en question...
Ouais.
Comme on dit, y a-t-il eu des rapprochements?
C'est là qu'Arthur Chandonnet embarque dans l'histoire. L'autre suspect qui avait été arrêté. Oui. Lui, il dit que quelques jours ou quelques semaines avant, en tout cas très peu de temps avant le meurtre, il dit, ben oui, il dit, moi, McCree, il m'a confié qu'il tuerait Slater pour marier sa femme.
Parce que c'était des amants.
Ouais.
Oh, OK.
Ouais, ouais,
ouais. Il y a plusieurs dimensions, là.
Ouais.
Dans le fond, ça pourrait être un crime passionnel.
Oui.
Mais là, je dis au conditionnel, ça pourrait.
On va au conditionnel à cause du résultat.
On ne fera pas ce qu'on dénonce, là.
Non,
on ne fera pas les Jack.
Mais tu sais, c'est tentant, pareil.
On peut pouvoir dire un plus un fait deux, mais on va s'abstenir de le faire.
C'est ça. Et voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi d'un autre côté, il n'y a pas juste l'aspect du crime, moi, qui m'intéresse dans ça, c'est les avocats, les personnes impliquées, des personnages plus importants qui ont été des fois un peu oubliés avec le temps. Puis c'est difficile aujourd'hui, des fois, de retracer. Il y a des personnages qu'on sait qui sont importants, comme N.K. Laflamme, qui était avocat de Montréal. On sait qu'il était impliqué dans certaines choses. C'est lui, je pense, qui avait fait une motion pour la corruption à Montréal, qui avait mené une grosse enquête là, et tout ça.
Il y a une certaine célébrité.
Oui, exactement. C'était la grosse pointure de Montréal qui débarquait à Trois-Rivières. Puis il s'est associé avec, ce qui est intéressant, il s'est associé avec Joseph Alfred Daisy.
Okay.
Qui lui était un avocat de Trois-Rivières, qui est devenu juge par la suite. Et lui, Daisy, la particularité qu'il a, c'est que c'est lui qui a présidé le procès beaucoup plus tard, là, en 1920, du père d'Aurore Gagnon. C'est lui qui, ouais, qui
un
est.
Cas, ouais, un cas célèbre. On va
ouais. C'est ça.
C'est le procès de qui, là, quand ça commence? C'est-tu le procès des trois?
Non, ils ont décidé pour des raisons que souvent on n'a pas dans l'administration, si tu veux. Tu sais, on n'a pas toutes les explications dans le dossier judiciaire, mais pour des raisons qu'eux seuls connaissaient à l'époque, ils ont décidé de faire des procès séparés.
Okay.
Donc, le premier procès, c'est Wallace McCree, qui subit son procès le 8 mars 1906, son procès débute devant le juge Lawrence Cannon. Pendant le procès de McCree, c'est que les deux points vraiment principaux, c'est que, comme on disait tantôt, Arthur Chandonnet a dit que McCree, ça a été très incriminant pour lui, qu'il avait confié qu'il tuerait M. Slater pour marier sa veuve. Et puis, il y a Ursule, la belle-sœur de la veuve, qui, elle, dit que Slater était sorti vers 18h45 pour aller à son écurie.
Okay.
Là, ça a de l'air pas précis comme ça, mais ça va avoir un gros impact parce que, comment je dirais ça, il y avait Arthur Chandonnet qui est sorti, lui aussi, de la maison, mais là, avec cette heure-là, 18h45, Arthur Chandonnet était sorti depuis une heure déjà pour aller chez un autre voisin. Okay. Donc, il y avait une heure d'écart, fait que ça ne faisait pas de Chandonnet un suspect pour l'instant.
Okay.
Ça va changer ça aussi. Donc, McCree est déclaré coupable parce que le jury décide que vraiment, il y a assez d'éléments pour croire que c'est lui.
Mais là, tu nous as dit que tu parlais d'un meurtre non résolu. Il est résolu?
La justice n'a pas dit son dernier mot, encore.
Ah, okay.
Parce que la veuve n'a pas été jugée et pour d'autres raisons qu'on va voir. L'accusé, c'est ça. Là, il est condamné à mort, vraiment, parce que c'était ça à l'époque. Quand c'était meurtre prémédité, c'est la condamnation à mort. Quelques semaines après, à peine, le 16 mars, non, le 26 mars, excuse-moi, en 1906, là, c'est le procès de la veuve. Elle avait quand même témoigné au procès de McCree, mais elle s'était mérité une outrage au tribunal parce qu'elle a refusé de répondre aux questions.
Oh!
Elle dit, je ne saurais en répondre. C'est la réponse qu'elle répétait tout le temps. Le juge lui demandait, à un moment donné, le juge a passé à deux poils de sauter un plomb, là, vraiment.
C'est un gars stable.
Ouais, ben il posait la question, croyez-vous en Dieu, tout ça, parce que...
Je ne répondrai pas à cette question.
C'est, voilà, tu sais, c'était tout le temps ça, là.
On pourrait dire, en termes d'aujourd'hui, elle a joué au niaiseux. Là.
C'est ça, oui. Parce que même avant son propre procès à elle... Elle a prétendu, à un moment donné, en tout cas, ses avocats ont vraiment tout essayé pour gagner du temps, tout ça. Ils ont même prétendu qu'elle ne parlait pas français, parce que là, elle parlait un dialecte autochtone et que ça prenait un interprète, alors que ce n'était pas vrai du tout, elle parlait très bien français. La couronne a réussi à le démontrer.
Fait que là, ce procès-là, juste en conclusion, parce qu'on va prendre une pause puis on va revenir, ce procès-là, il mène à quoi?
Il mène à un acquittement.
De la dame. On ne réussit pas à déterminer qu'il y avait une complicité dans notre premier
acquittement. Non, c'est ça.
Fait que là, mais c'est pas fini, ça.
Non.
On revient après la pause.
Chez Environ Connexion, nous sommes fiers de nos employés et nous serions heureux de t'accueillir dans notre grande famille. Nous sommes leaders de la gestion de matières résiduelles et nous avons des postes à combler de conducteurs classe 1 et 3, opérateurs, mécaniciens et même journaliers et éboueurs dans nos différents terminaux. Le choix, tu en as chez Environ Connexion. On t'invite à venir parler avec nos équipes de recrutement lors de notre grande journée porte ouverte dans une région près de chez toi, le samedi 30 avril entre 9h et 14h. À Granby, chez Sani Eco, au 530 rue Édouard. À Sherbrooke, chez Sally Estrie, au 405 Rodolphe Racine. À Boisbriand, chez Enviro Connexion, au 4141 Grande Allée. À Belœil, au 1205 rue Louis Marchand. Et à notre terminal de Laval, au 4799 rue Bernard Lefebvre. Seulement des postes déboueurs sont disponibles en ce moment. Impossible de t'y rendre? Pas de problème. Visite notre site maroute.ca ou communique avec Annie au 438-221-8733. Au 438-221-8733. Environ Connexion. Ma route, mon succès.
Donc, la dame est acquittée.
Oui.
Et elle va fêter.
Et voilà, elle va fêter l'hôtel Dominion. qui il dit absolument rien aux gens aujourd'hui, mais la particularité de l'Hôtel Dominion, c'est qu'il a passé au feu dans le grand incendie de Trois-Rivières en 1908, qui a détruit une bonne partie de Trois-Rivières. Donc, elle, elle va fêter là, puis elle retourne en Haute-Mauricie, puis à partir de là, la justice, malgré le fait qu'elle a une accusation d'outrage au tribunal à cause de ses réponses, la justice ne mettra plus jamais la main sur elle. Mais on revient à, après son, au lendemain de son acquittement. C'est que son acquittement a convaincu ses avocats, les avocats de McCrae, de dire « ben là, on vient d'ouvrir une porte. Okay. » Si la, la maîtresse de notre client est acquittée, alors que la preuve de la couronne était basée, dans le fond, sur le fait qu'il était des amants et qu'il y avait une complicité, ben là, nous autres, on peut essayer quelque chose. Donc, à force de travailler fort, en 1907, ils obtiennent la cassation du verdict de culpabilité contre Wallace McCrae. Et là, on retombe à zéro. Okay. Il y a un deuxième procès qui, lui, se déroule, s'ouvre, dans le fond, le 6 avril 1908 pour McCrae, cette fois devant un juge différent. Et là, ça change encore du côté des témoignages. Le témoignage de Ursule, c'est elle qui va changer beaucoup de choses. C'est qu'au lieu de parler de 18h45, là, elle dit que Slater était sorti de la maison à 17h45, ce qui veut dire que Arthur Chandonnet, l'autre suspect en attente, si on peut dire, là, ça le met, lui, il sera sorti de l'auberge juste 2 minutes après Slater.
Okay.
Pour aller chez le voisin, pendant que McCrae dormait en haut, là, il était sous, là, lui.
Ah, ouais.
Là, ça faisait plus Chandonnet comme un suspect, là, vraiment. Fait que à cause de ça, à cause de ce changement d'orientation-là, si tu veux, la preuve s'était transformée. Mais là, cette fois-là, le 7 avril, le procès, les délibérations durent 18 minutes pour le jury. Fait qu'on voit que leur idée s'était faite pendant
donc,
le procès.
Troisième procès relié à ce cas-là, ce meurtre-là de M. Slater.
Ouais.
Puis là, il y a deux acquittements.
Deux acquittements.
Puis là, le monsieur que tu me parlais, le Chandonnet,
Chandonnet,
il s'est traduit en justice, lui?
Chandonnet n'a jamais eu de poursuite contre lui. Ça peut être étonnant, mais probablement par manque de preuves, parce que si on avait juste l'heure, puis on n'avait rien d'autre, tu sais, on avait plus de preuves avec Mme Slater puis son amant. On avait le fait qu'elle savait le revolver, qui était le seul à connaître la cachette. On avait le fait que McCrae avait lancé apparemment, mais ça, ça vient de Chandonnet aussi.
Oh oui.
T'sais? Fait que là, vraiment, il n'y a jamais eu de poursuite contre Chandonnet.
Fait que là, on a trois procès, on a un monsieur qui est mort, puis on ne sait pas c'est qui l'a tué.
Non, on ne l'a jamais su, puis on ne le saura jamais.
L'affaire Vautour, ça, on est en 1913 à Montréal.
Ouais,
l'affaire... Qu'est-ce qui se passe?
L'affaire Vautour, c'est moi, ça m'avait frappé, j'avais découvert ça au fil de la création de ma liste de cas non résolus et à travers les journaux, parce qu'on croise souvent, on cherche quelque chose des fois, puis on croise autre chose. Hein. Ça arrive souvent dans les recherches. Puis l'affaire Vautour, ce qu'il y a de particulier, c'est que les deux parents ont été assassinés en pleine nuit. Ça, c'est à Montréal.
Mm-hmm. Okay? Dans un logement.
Oui, dans un logement à Montréal. Et puis, ils sont assassinés à coups de hache. Le père survit un peu pendant la nuit. Ses enfants, le couple avait 6 enfants. Les enfants ont connaissance un peu du bruit qui se passe dans la maison, mais au moment qu'ils se réveillent, leur mère est déjà morte dans le lit. Leur père est gravement touché, puis il va mourir d'ailleurs dans les heures qui suivent.
On ne voit plus ça, en tout cas, on ne souhaite pas d'en voir non plus, là, non. Mais c'est moins commun, mais des meurtres à la hache, le fait que les gens chauffaient au bois,
ouais.
C'était des outils qu'on trouvait facilement d'accès dans beaucoup de maisons.
C'est vrai.
Et là, sans spéculer sur cette histoire-là, excès de colère, il y a une hache qui traîne là, pogne la hache.
C'est ça.
Et mais là, la suite de ça?
La suite, c'est qu'il y a 6 enfants qui tombent orphelins d'un coup.
Oui.
Et parmi ces enfants-là, il y en a qui vont témoigner à l'enquête de coroner, parce que les informations que je tire de ça, c'est de l'enquête de coroner, parce qu'il n'y a jamais eu de procès. Il y a un des enfants qui dit que c'est son oncle. Il accueille son oncle parce qu'il dit l'avoir vu cette nuit-là sortir en trombe, en tout cas, peu importe. Et puis là, il semble avoir contradiction. Mais tu sais, les enquêtes de coroner en 1913, c'est pas tout à fait encore... C'est un peu aléatoire, tu sais, ils sont pas tous dactylographiés. Celle-là est écrite à la main. Les témoignages sont pas complets. Là, il y a revirement de situation parce que l'enquête de coroner ne se déroule pas en une seule journée. Se déroule sur plusieurs journées. Et là, la situation change. Là, ils sont plus sûrs, en tout cas. Bref. Le mononcle en question est dénommé Michaud, va être exonéré.
Contrairement à notre cas de M. Slater tantôt, il n'y a jamais eu de procès.
Non, jamais.
On a un meurtre, un double meurtre.
Oui, pourtant
très,
important.
Très, très sauvage.
Oui.
Et
ça reste comme
100
ça.
100 ans plus tard.
Oui.
Mais il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui va t'écrire, toi.
Okay. Oui. Là, je n'ai pas leur autorisation parce que ça fait quand même presque 2 ans de ça que je suis un peu en négociation.
Des descendants.
Oui. Les descendants m'ont contacté.
Les enfants, non, je trouve.
Non, les arrières.
Les enfants des enfants de la famille.
Ouais. Okay. Ils m'ont contacté. Bien, une personne, entre autres, qui prenait un peu la parole des autres. Là. La particularité dans ça, c'est qu'ils n'étaient pas au courant de ce qui s'était passé. Du tout. Ils savaient que les parents... Il y avait une possibilité d'accident de voiture, mais le fait que ce soit un crime... Pas du tout.
Ça peut paraître curieux, mais maintenant, tu sais, les enfants doivent dire « Hey, tes parents ont été assassinés sauvagement à coups de hache.
Ouais. »
Être parent, je dirais peut-être pas ça, mais enfants.
Voilà. Mais ça semble, c'est pas la première fois que j'ai vu ça non plus. Okay. Ça semble, justement, comme tu dis, il y en a qui vont cacher des choses un peu, mais cacher pas de façon...
criminelle, mal intentionnée, juste...
Puis il y a des personnes, des fois, qui ne veulent pas non plus être questionnées. Ouais. Tu sais, mettons, quand tu te fais répéter là, 100 fois l'histoire du meurtre de tes parents, peut-être que tu n'as plus le goût d'en parler. Tu sais.
Par exemple, papa est en prison, on va peut-être dire, papa, il est parti travailler dans l'Ouest canadien.
Ou comme à une certaine époque, il disait, papa, il est à l'université. Tu sais.
Ouais. Donc, on referme cette parenthèse-là. Ouais, mais dans le fond, ce qu'on peut dire de tout ça, c'est que via la revalorisation des archives que tu fais, ça permet à des gens... de découvrir.
Oui. Ça a du bienfait,
bienfait jusqu'à un certain point.
Ouais,
mais de mettre des faits sur choses qui se sont passées réellement. Ouais. Donc, pas de procès. Mm-hmm. Tu as fait une demande à la police de Montréal.
Oui, je me suis quand même essayé parce que comme on parlait pendant la première émission, tu sais, à propos des documents et tout ça, que les dossiers de police, c'est bloqué pour 100 ans. Bien là, on est en 1913, ça fait plus que 100 ans. Je me suis dit, bien, on l'essaye. Et... La coïncidence, si on peut dire dans ça, ou le sourire en coin, c'est que, si je me trompe pas, le double meurtre vautour a lieu en février 1913, puis les dossiers de police accessibles commencent, ou ceux qui ont été conservés, commencent en avril 1913.
Ah!
À deux, trois mois d'intervalle.
OK. Donc, il n'y aurait pas d'archives conservées de l'enquête du coroner.
Non, parce que quand un cas m'intéresse, j'essaie d'aller trouver tout ce qui est existant. Tu sais.
Oui.
Alors, dans ce cas-là, il faut faire une croix là-dessus, malheureusement.
Maintenant, une cause, là, c'est le meurtre d'une jeune femme.
Oui.
Et qu'elle avait quel âge, Blanche?
21 ans.
21 ans.
Oui.
Moi, je vais te faire une confidence sur ce dossier-là. Pour avoir habité à Québec, moi, je suis né, comme tu sais, à Saint-Léonard-d'Aston. J'y suis revenu. Mais j'ai resté une dizaine d'années à Québec, moi.
Okay.
Et moi, l'histoire, ça m'a toujours intéressé, même si je n'étais pas chez moi. Et cette histoire-là, elle est, je dirais, encore vivante à Québec. Parce que un crime, en soi, ce n'est pas désincarné. C'est dans un contexte historique. Par exemple, au Rohr-Gagnon, village rural, l'impact, l'influence de la religion, la méconnaissance de la santé, des problématiques de santé mentale, c'est des facteurs qui expliquent ce crime-là. Blanche Garneau, il y a un aspect qui vient, je dirais, former la vie sociale, la vie économique, la vie politique de Québec, c'est que tu es à Basseville puis tu es à Haute-Ville. C'est très marqué, même encore aujourd'hui. L'élite reste à Haute-Ville, les dirigeants, les bien-pensants, les possédants, les avocats, les politiciens, les gens d'affaires qui ont beaucoup d'argent, ça reste en Haute-Ville. Ça, juste pour situer, c'est Sillery, Sainte-Foy, là, c'est moins vrai Sainte-Foy, mais Sillery, près de la colline parlementaire,
dans le fond.
Ça, c'est la Haute-Ville. Puis en bas, tu avais Saint-Roch, tu avais Saint-Sacrement, des quartiers plus populaires, qui le sont encore, et il y avait comme une différence entre les deux. Et ce crime-là, moi, la lecture qu'on m'en faisait, c'était des gars de la Haute-Ville qui ont tué une fille de la Basse-Ville puis qui ont été protégés parce qu'ils étaient riches puis puissants. C'est tout ça qui est arrivé.
Je vais revenir un peu sur ce que tu as dit, parce que c'est vrai jusqu'à un certain point, c'est que ce qui a été entretenu comme histoire, c'est exactement ce que tu as dit. J'avais lu justement le roman qui s'appelle Haute-Ville, Basse-Ville, de Chartrand, je pense, ou Charland. L'auteur Charland. Puis, je savais, c'est un peu comme dans le cas d'Aurore, il y a des choses que j'ai lues en partant, je savais que c'était des romans. Et malheureusement, il faut le préciser que des romans, c'est pas des livres de référence.
Non.
Puis je dis malheureusement parce qu'il y a des gens qui vont lire un roman, qui m'ont déjà écrit, puis qui prennent ça pour du cash.
C'est ça.
C'est un divertissement, un roman.
Oui. L'auteur s'inspire de faits vécus, mais il donne...
Je parle pas négativement des romans. Moi, j'en lis très peu parce que j'ai pas le temps avec mes recherches.
C'est un roman.
Oui, mais le livre de Charland, qui est quand même une bonne brique, moi, je me suis pris, je savais, là, je lisais des choses, je me disais, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais je me suis pris quand même au jeu. J'ai adoré son roman, mais il faut faire la part des choses.
Fait que, qu'est-ce que tu me dis, Éric, c'est la lecture que j'ai, elle est influencée... Parce que moi, je n'ai pas été dans les archives, je n'ai pas été comme toi consulté.
Mais moi non plus.
Des candidatons, des histoires, entre autres. André Arthur, nommons-le. Moi, j'écoutais ça, André Arthur, lorsque j'étais à Québec. Je trouvais ce personnage-là fascinant. Ouais. Moi, j'avais été élevé avec Gilles Proulx.
Okay.
Moi, j'étais un auditeur de Gilles Proulx très jeune. Donc, ce style de radio-là, moi, ça m'a toujours plu. Mais j'ai toujours compris aussi que c'est un spectacle.
Je vais juste te dire, en ami, que les procès ne se font pas à radio.
Exactement.
Ah, c'est
Arthur a beaucoup parlé de cette histoire-là.
Oui, j'en ai entendu parler, mais moi,
il donnait cette couleur-là, la couleur. Okay. Donc, on va y venir, puis après la pause, dans le fond, tu vas décrire. Parce que là,
le dossier le judiciaire parle, ce qu'il peut dire
On va décrire le crime, l'endroit, et par la suite, l'enquête, le procès.
Ouais.
Donc, on vous revient après la pause avec l'affaire Blanche Gardin.
Chez Enviro Connexion, nous sommes fiers de nos employés et nous serions heureux de t'accueillir dans notre grande famille. Nous sommes leaders de la gestion de matières résiduelles et nous avons des postes à combler de conducteurs classe 1 et 3, opérateurs, mécaniciens et même journaliers et éboueurs dans nos différents terminaux. Le choix, tu en as chez Enviro Connexion. On t'invite à venir parler avec nos équipes de recrutement lors de notre grande journée porte ouverte dans une région près de chez toi, le samedi 30 avril entre 9h et 14h. À Granby, chez Sani Eco, au 530 rue Édouard. À Sherbrooke, chez Sally Estrie, au 405 Rodolphe Racine. À Boisbriand, chez Enviro Connexion, au 4141 Grande Allée. À Belleuil, au 1205 rue Louis Marchand. Et à notre terminal de Laval, au 4799 rue Bernard Lefebvre. Seulement des postes d'éboueurs sont disponibles en ce moment. Impossible de t'y rendre? Pas de problème. Visite notre site maroute.ca ou communique avec Annie au 438-221-8733. Au 438-221-8733. Enviro Connexion. Ma route, mon succès.
Donc, Blanche Garneau, Québec.
Ouais.
Le lieu.
Le lieu, c'est le lieu du crime. C'est-à-dire, juste faire une petite parenthèse, elle restait sur la rue François 1er, qui était dans le stade d'Acona.
Oui.
Et le parc, il faut spécifier peut-être que le parc, la rivière, la rue Saint-Charles a changé de cours depuis ce temps-là, donc c'est pas tout à fait la même configuration. Mais elle travaillait dans Saint-Sauveur, sur la rue Saint-Vallier, dans une boutique de thé.
Okay.
Donc, tout ce qui est de plus banal, une fille sans histoire, sérieuse, qui aimait la lecture, apparemment un peu de piano, mais bon, tout ça. Mais vraiment quelqu'un qui... sans histoire. Tu es vraiment une fille correcte.
Puis c'est pas une raison de tuer, mais on parle pas de métier à risque comme la prostitution ou travailler dans des boîtes de nuit.
C'est un bon point t'amène là.
Donc t'sais. C'est pas quelqu'un qui avait une vie dissolue, on pourrait dire.
C'est ça.
Donc elle est retrouvée assassinée dans le coin du parc Victoria, c'est ça?
Dans le parc Victoria.
Dans le parc Victoria.
Ouais, carrément.
C'est proche maintenant de où est-ce que le poste de police.
Je crois que oui. Moi, je suis allé sur place, puis écoute, je me suis renseigné
proche
un peu.
Proche du stade de baseball?
Il y a la rue Parent.
OK.
Mais il y a le prénom d'une personnalité, en tout cas, avant. Mais c'est la rue Parent. Le pont était au bout de ça, avant. Okay. La rivière passait là. Et puis maintenant, c'est comme un genre de... Moi, quand je suis allé, il y avait des jeunes qui jouaient au soccer. Donc, il n'y a plus de pont.
Okay.
C'est la rue qui bifurque un petit peu, mais en face, c'est un terrain gazonné, tout simplement. Okay.
Donc, retrouvé assassiné,
on
identifie rapidement ce crime-là. Il y a une nature sexuelle.
Oui, il y avait du sperme qui a été retrouvé sur le corps.
C'est un viol.
Oui, oui.
Un viol suivi d'un meurtre.
Oui.
OK. Et là...
C'est juste les circonstances auxquelles elle avait la routine de faire toujours le même trajet.
Okay.
Et que sa meilleure amie, qui s'appelait, je vais prononcer comme il faut, parce qu'on ne voit pas ça souvent, ce nom-là, Edès Mé Boucher.
Okay.
Donc, la petite bouchée, ça va être plus facile pour le reste
du récit.
Minutes, la petite bouchée avait pour habitude, elle était du même âge qu'elle. Elle travaillait dans une autre boutique, pas loin de. Donc, à la fermeture, vers 18h30, elle avait l'habitude de l'accompagner jusqu'au pont de la rue Parent et puis de la laisser aller après traverser le parc pour rentrer chez elle. Et ce soir-là, le 22 juillet 1920, elle fait la même chose. Elle laisse Blanche Garneau traverser le pont. Et puis là, on va retrouver le corps seulement le 28 juillet, mais pas loin après le pont.
C'est des enfants qui, en passant...
Oui, qui allaient se baigner à la rivière Saint-Charles parce que c'était un été apparemment très chaud.
Okay.
Donc, ce sont des petits garçons qui ont découvert le corps.
Et là, il y a une enquête qui s'amorce. Le coroner, c'est M. Georges W. Jolicoeur.
Oui.
Et l'autopsie est pratiquée par Dr. Albin Marois.
Oui. Et ça, c'est deux personnes, je te fais une petite parenthèse, c'est les deux mêmes qui ont fait, le coroner et le docteur, qui ont fait le cas d'Aurore Gagnon quelques mois auparavant.
OK.
Oui, c'est les mêmes.
Ah, bon. Ouais. Et là, il va naître la spéculation, les commérages, les rumeurs reliées à ce cas-là,
ouais.
Ça va naître là.
Bien, moi, c'est ce que j'ai vu en lisant l'enquête de coroner, parce que, premièrement, il y a des personnes clés là-dedans. Quand ils ont découvert le corps, premièrement, la scène n'a pas été protégée. Le premier détective qui s'est rendu sur les lieux, ça a pris 10 jours.
OK. Fait que là, c'est un parc, le monde se promène.
Puis là, tu sais, on parlait de ne pas juger avec nos yeux d'aujourd'hui, mais on peut le faire quand même un peu parce que en 1920, OK, il y a des scènes comme Cordelia Vio, là, par exemple, qui, elle, est en 1897. Donc, on est plus que 20 ans avant. Bien, la scène avait été protégée. Fait que là, on se dit, bien, puis donc, qu'est-ce qui se passait à Québec, là? Il n'était pas au courant des sciences judiciaires?
C'est pas du balbutiement, mais
c'était
comme un sure shot. Il y a un meurtre qui se protège la scène.
C'est ça.
Il savait.
C'est ça, tu sais, au moins un petit peu.
Ah, oui.
Surtout dans un endroit public comme ça. Donc, les personnes clés, il y a un dénommé Moisan qui, lui, c'était les pompes funèbres, là, qui est venu chercher le corps, tout ça. Il y a lui, il y a les petits garçons aussi. Il y avait deux petits garçons. Ils sont trois. À avoir vu la même chose, dans le sens qu'il n'y avait pas de sentier de taper dans les herbes jusqu'à la rivière, alors que il y avait un gardien de nuit, lui, qui rôdait dans ce coin-là, là, qui a été alerté par les petits gars quand ils ont découvert le corps. Lui, il a été le seul vraiment à dire, puis il a parlé après dans les journaux assez ouvertement pour déjà dire ses conclusions, que lui, il disait avoir vu un sentier taper dans l'herbe, d'où la rumeur que le corps avait été porté en chaloupe et qu'elle avait été assassinée, tu sais, ça va loin, là, mais qu'elle avait été assassinée après par des gens de la Haute-Ville. Et là, on va voir après qu'il y avait deux fils de députés là-dedans.
Parce que le crime, ce qu'on comprend de ça, c'est que cette histoire-là fait en sorte qu'on peut penser que le crime n'avait pas été commis là.
Ouais.
C'est qu'un corps, c'est un corps qui avait, crime avait été commis, puis avait été déposé
c'est
là.
Ça. Mais c'est pour ça que ça semble partir de l'enquête de coroner, parce que lui, c'est ce gardien-là, il est vraiment seul à prétendre ça. Les autres témoins disent, ben non, on n'a pas vu ça, nous autres.
Okay.
Mais tout indique, plus on lit, tout indique que même le docteur Marois va témoigner à un moment donné que selon la disposition des vêtements, tout ça, elle ne pouvait pas avoir été assassinée ailleurs. Là.
Fait que là, on a un procès à un moment donné.
Ouais. Il y a ce qui arrive dans ça juste avant. Là, on se transporte à Montréal parce que là, l'enquête de coroner, ça stagne, ça avance pas.
Ah oui?
En décembre 1920, quelques mois après, là, il y a un enquêteur privé qui s'appelle Joseph Valade, parce que les détectives privés, à cette époque-là, c'était un peu aléatoire, là, mais en tout cas. Lui, il est au palais de justice, il est en train de lire le journal, puis il reconnaît un de ses anciens... un voyou, là, tu sais,
un criminel d'habitude.
Henri Duval, surnommé Tinoir.
OK.
OK, c'est un ancien militaire du 22e, en plus, ce qui peut être surprenant. Puis lui, là, il parle un peu de façon aléatoire, là, tu sais, il n'est pas incohérent, un peu,
confus.
Ouais, c'est ça.
Peut-être intoxiqué.
Ouais, sûrement.
Problématique de santé mentale, peut-être.
Je ne sais pas, c'est difficile. Ouais.
Il ne l'a pas rencontré.
Non, plus.
Puis je ne suis pas psychiatre.
Mais là, il se met à dire, lui, qu'il a vu l'assassinat de Blanche Garneau. Mais là, on est à Montréal. Ouais, il dit ça au détective. Lui, il dit qu'il a vu deux... Là, à force de le questionner, il l'amène au bureau du capitaine Lorrain, à Montréal, qui était connu pour la police provinciale à cette époque-là. Et puis, c'est ça. Là, c'est un peu confus, mais par contre, ça se tient quand même un peu, son affaire. Dans le sens qu'il dit, bon, ben, je les ai vus, moi, les gars qui ont tué. Moi, je t'assous, je n'ai pas pu intervenir, blablabla. Il dit, j'ai vu des morsures au sein
de Blanche. Il a vu des hommes mordre la victime.
Okay. Ça vient contredire carrément l'autopsie du docteur Marois. Parce que
dans le rapport, ils n'ont pas identifié, parce qu'il y a une autopsie, ils examinent le corps, puis ils voient les traces de blessures.
Comme tu disais tantôt, dans l'affaire des Ries, il y a des éléments qui vont cacher, justement, pour confondre un moment donné un suspect. Ben, ça amenait des choses comme ça. Donc, Tinoir, il ramène, eux autres, la justice vont quand même le ramener à Québec pour y faire une déclaration officielle. Elle existe, là, vraiment. Moi, je l'ai tout mis dans mon livre. pour démontrer, avec les fautes d'orthographe en plus, là, oh, pour oui, vraiment démontrer que ce soit le plus authentique possible. Non, c'est ça. Mais non, mais des fois, ça peut confondre. T'sais, tu dis, quelqu'un qui fait toujours la même faute, tu peux comparer avec un autre document, tu dis, ah, c'est
le même.
Ça n'a pas aidé dans ce cas-là, mais des fois.
Oui, oui.
Et puis, parallèlement à ça, pas longtemps après, pendant la période des fêtes de 1920-1921, l'autre rumeur, parce que là, on s'entend que ça devient suspect, le petit noir devient suspect, parce qu'il dit avoir vu les deux gars, mais avec ce qu'il raconte, il aurait pu être impliqué.
Et le connaissant la vie dissolue de l'homme en question.
Oui, c'est ça. T'sais, ça aurait pu.
Qu'est-ce que tu faisais là?
Puis là, on se transporte en Ontario. Il y a un autre gars qui, lui, arrive dans un bureau d'avocat et il dit « Moi, je sais c'est qui a tué Blanche Garneau. »
Il arrive là, il rentre dans un bureau, voici.
Là, il venait d'être libéré de prison. Okay. Il dit « Pendant que j'étais en prison, en Ontario, il y a une place là, qui appelait le genre de travaux forcés. Il appelait ça la ferme industrielle. Okay. Il faisait travailler les détenus sur une ferme, puis bon, tout ça. Puis là, lui, en étant libéré, il va voir son avocat et il se dit « Un dénommé Raoul Binette. » Il disait en prison, il n'arrêtait pas de dire, il lisait le journal, tout ce qui avait rapport avec Blanche Garneau, puis il n'arrêtait pas de dire que c'était lui, avec une autre personne, un anglophone, son nom va sortir après, un dénommé Palmer. Et on dit, il avoue là, que c'est lui. Fait que là, la police se met à la recherche de Binette, parce que là, il est où, là, lui? Là?
Et ça, là, je vais me permettre de faire une petite parenthèse.
Ouais, vas-y.
La série de meurtres Tate LaBianca, Charles Manson, en Californie, 1969. L'enquête, ça part d'une histoire comme ça.
Okay.
C'est une fille, une des membres de la secte de Charles Manson, qui est en prison pour une autre affaire.
Okay.
Je pense que c'est un vol relativement mineur.
Okay.
Puis elle parlait à une de ses co-détenues.
Okay.
Puis la co-détenue a dit, hein? Parce que le meurtre, au départ, la série de meurtres, c'était comme les policiers ne savaient pas ce qui s'était passé.
Non, c'est ça. C'était,
et c'est ça qui va amorcer l'enquête.
Okay.
Une confession d'une co-détenue.
Ah,
donc, pour montrer que parfois, c'est pas juste parler. Là.
Non, c'est ça. Des fois,
il reste que quelqu'un qui est emprisonné peut avoir des valeurs. C'est pas
juste... Oui, non, exactement.
On commet des crimes, mais tu peux entendre des choses. Ça, la co-détenue avait entendu ça, elle dit, ça n'a pas d'allure. Faut que je le dise, puis elle l'avait dit.
Okay.
Refermons la parole.
Non, mais c'est très bien.
Ça merci.
Puis là, les autorités, pour l'époque, réussissent quand même à retracer Binette assez rapidement.
Les Binettes en question.
Il est arrêté. Ils vont retracer le dénommé Palmer en question aussi. Tout ce beau monde-là est ramené à Québec. Binette va faire une déclaration, plusieurs, en fait, je les ai mis dans mon livre aussi. Des fois, lui-ci est un petit peu confus, mais il est assez bavard.
C'est un jaseux.
Le juge, il dit à un moment donné dans sa déclaration, c'est dans les transcriptions, là, noir sur blanc, il dit là, je vous avertis, vous avez le droit de garder le silence, puis le juge, je pense, n'a même pas le temps de finir sa phrase que mon autre, il déblatère son histoire tout de suite. Mais ça se tient plus que Tinoir, je dirais. Les détails qu'il va révéler, lui, il ne parle pas des seins, des morsures aux seins, tout ça. Puis la justice va trouver qu'à l'époque, parce que là, on se rappelle que Blanche Garneau a disparu le 22 juillet, elle est retrouvée le 28. Donc, dans ce laps de temps-là, il y a un Binette qui s'est enregistré dans un hôtel dans le quartier Saint-Roch.
Qui était dans le coin.
Oui, qui était dans le
coin. Mais là, le Binette en question, c'est-tu un gars qui est issu de la Haute-Ville, de la...
Lui, il vient même pas de Québec.
Okay,
c'est quelqu'un qui se promenait un peu partout.
On n'est pas dans la rumeur des gars de la Haute-Ville protégés.
Non, pas du tout. C'est un ouvrier itinérant, dans le fond.
Fait que là, lui, il jase. Il y a un procès, notre ami. Puis Palmer aussi.
Oui, la justice décide de leur faire un procès conjoint, les deux en même temps. Parce que dans sa déclaration, écoute, la déclaration de Palmer est très courte. Lui, il fait juste dire que Binette, il ne le connaît pas.
Okay.
Mais plus tard, il va, après le procès... Palmer va avouer qu'il était à Québec à cette époque-là. Donc, c'est... Ouais. C'est deux beaux... Moi, je les appelle mes deux beaux clowns, là, mes suspects favoris, mais il y en a eu plus que ça.
Mais là, fais pas ton spéculateur.
Non,
là.
Non. C'est des suspects favoris.
Pas
coupables.
Mais il y a eu un procès, puis ils sont acquittés.
Voilà. Ils sont acquittés. Parce que l'alibi... écoute, ils auraient été acquittés à cause de leur alibi.
Okay.
Mais quand on lit vraiment le procès... L'alibi est vraiment pas solide.
Okay.
L'alibi de Binette, entre autres, c'est qu'il aurait travaillé dans le coin de Saint-Raymond pour une compagnie forestière, tout ça. Mais ses déplacements, tu sais, il aurait pu se rendre par train, par les heures. Là, maintenant, on voit qu'il aurait pu se rendre, repartir. Mais même les feuilles de temps là, qu'il remplissait pour cette compagnie-là, c'est pas tout à fait clair. Alors que l'alibi de Palmer, Lui, c'était du côté de Sherbrooke.
OK.
Puis ils n'ont rien prouvé, écoute.
Donc, il est acquitté.
Ils sont acquittés.
Mais notre homme, Binette, là, ouais. Il va être accusé de parjure. Il est condamné pour parjure.
Parce qu'à cause de ses déclarations, okay. qui sont contradictoires, ben, le juge décide, ben, regarde, on va te donner 5 ans pour parjure, mon ami.
Mais pas pour
d'accusé. Pas pour meurtre, non. Okay. C'est ça, il manquait de preuves. Puis pendant ces 5 années-là, il est retourné, ben, il a encore avoué une autre fois qu'il avait tué Blanche Gardin.
Fait que ce serait lui. Fait que l'histoire de gars de la Haute-Ville qui ont été protégés par le système...
Là, je te parle de ce qu'il y a dans le dossier
ouais.
Judiciaire, mais dans le dossier judiciaire aussi, c'est que ça ne s'arrête pas avec le procès. Il y a eu une commission royale d'enquête en 1922. Puis, fait que là, peut-être que les gens... c'est difficile à voir à travers les journaux de l'époque, là, mais c'est comme si ça donne l'impression un peu que les gens attendaient un peu la fin du procès. Puis là, le procès, bien là, ils finissent toutes les deux acquittés, donc on recommence encore à zéro. Fait que là, les rumeurs ont reparti de plus belle pour les fameux deux fils de députés. Et puis, eux autres, ils vont comparaître. Il y a un dénommé Madden, puis l'autre, c'est un Paquette. Ils vont comparaître, ils vont témoigner, vraiment, toutes les deux. Il y en a même un, ça nuit à sa réputation, puis là, il vide un peu son sac, là. T'sais, il s'explique, parce que là, on se met un peu dans sa peau. Lui, les deux avaient un alibi en béton, là, vraiment.
Fait qu'ils ont été identifiés.
Oui, oui.
Mais quand tu dis, ils ont témoigné en cours?
Oui, pendant la commission d'enquête royale.
Mais pendant une commission d'enquête.
Ils ont été appelés. On dit, regarde, on va vider la question. Okay. On va les faire témoigner.
Notre sac, oui, exactement. Ils ne seront pas.
Non, pas du tout. Okay. Ah, non, pas du tout. Ils ont des alibis vraiment béton. Sauf que, justement, le dénommé Madden, il explique, il dit, bien, la rumeur me visait assez rapidement, là, dans les premiers jours. Il dit, ça m'a nuit. Il avait essayé d'emprunter une police d'assurance à un moment donné pour sa compagnie. Je ne sais pas trop quoi. Ça lui a été refusé. Ça l'a nuit à sa carrière un bout de temps. Puis,
Mais, au bout du compte, des dizaines d'années plus tard, il y a une femme qui est assassinée. Puis la justice n'a pas identifié.
Non.
Donc, le rôle de la rumeur.
La rumeur est très importante là-dedans parce que à la fin de la commission royale d'enquête, il n'y a personne qui est blâmé. Alors qu'il y aurait peut-être dû... Les procureurs, il y a des questions qu'ils n'ont pas posées, des questions importantes. Parce qu'il y avait un autre suspect que je n'ai même pas eu le temps de parler.
C'est
Martin Griffin, qui lui avait demandé à Blanche Garneau de sortir 2 fois avec elle.
Ah.
Puis il n'a jamais été questionné sur cette affaire-là, alors qu'il a comparé au moins 3 fois.
Oh, okay.
Tu sais, c'est un manque.
Ouais.
La police, les gardiens du parc n'ont pas été blâmés non plus, alors que les rondes qui se faisaient, tu sais, c'était pas très surveillé, tout ça. Fait que la conclusion de la commission royale d'enquête, les témoignages sont importants parce qu'ils nous amènent aujourd'hui beaucoup d'informations. Ouais. Mais la conclusion, là, c'est presque à jeter à la poubelle. Mais la rumeur par après, là, qu'elle a évolué comme ce que tu as raconté tantôt en introduction, une des rumeurs, je vais te donner un exemple. En 1954, Allopolis a publié un article sur l'affaire Blanche Garneau. Ils ont décidé de s'en mêler, eux autres. Mais un article qui n'est pas signé, évidemment. Et qui dit, je cite, « D'après certains personnages qui se disent bien renseignés, Blanche Garneau n'aurait pas été assassinée. Selon cette version, la jeune fille aurait été amenée le soir de sa mort dans un hôtel de Québec où un groupe de jeunes gens de famille en vue avait organisé une partie de plaisir. Okay? » À retenir, un moment, apparemment terrassée par une crise cardiaque, la jeune fille se serait affaissée sans qu'on pût la ranimer. L'autopsie ne démontrait pas de crise cardiaque. Elle a été étranglée, c'est clair.
Ça a alimenté encore la rumeur.
C'est ça. C'est pour démontrer qu'à un moment donné...
Mais cette enquête-là, ce résultat-là, je pense qu'il est éducatif de chercher certaines choses à ne pas faire.
Ouais, c'est ça.
Conclure cette émission-là sur les cas de meurtre non résolus, des suggestions de lecture. À tout seigneur, à tout honneur, Éric, tu as commis un livre sur l'affaire Blanche Garneau.
Oui.
Donc, c'est ça. Et ça va faire 100 ans l'an prochain.
Oui.
Puis, je trouve ça généreux de ta part. Tu vas mettre en ligne gratuitement le contenu de ce livre-là.
Parce que mon but, c'est comme on s'en était parlé à la première émission, c'est pas de faire de l'argent, c'est d'informer les gens le plus possible. Puis, j'aime ça partager, moi, ce que je trouve dans les archives. Alors, pour les 100 ans de Blanche Garneau, à titre, je veux dire, à un rythme d'un article par mois. Je vais publier tout le contenu de mon
l'intégrale
livre.
Sur ton site Historiquement Logique.
Oui.
Donc, mais ce livre-là, pour les gens qui voudraient se le procurer, il est disponible.
Oui, il est disponible sur Amazon. Okay. Oui, il n'y a pas de problème.
Puis si on peut communiquer avec toi pour le commander.
Oui, on peut m'écrire sur le site. Oui.
On a parlé en introduction de le cas des cas.
Oui,
le cas des cas non résolus dans le monde, on pourrait dire.
Ouais.
Jack Léventreur.
Oui.
C'est un livre parmi tant d'autres. Pourquoi celui-là?
Parce que c'est un des premiers que j'ai lu récemment pour me remettre dedans. Puis c'est un des plus récents qui a sorti. Lui, sa théorie, c'est qu'il a réussi à avoir le châle d'une des victimes.
Okay.
Puis il l'a fait analyser avec des spécialistes d'ADN. Ça va loin. On n'est pas sûr des fois de suivre tout ce qui se dit. Mais ça se tient quand même, sa théorie. Il y en a des théories qui ne se tiennent pas du tout, mais la sienne quand même se tient. Mais est-ce qu'il a trouvé le vrai coupable?
Le smoking gun.
Ça, je vous invite à le lire pour vous faire votre propre opinion. Là.
Mais ça reste qu'il y a une industrie, ce cas-là.
Ouais.
Il y a des livres.
Mais je pense que c'est un peu le problème de ça, c'est que ça nous attire tellement, tout le monde veut faire de l'argent avec ça.
Ouais.
Tu mets Jack l'Éventreur sur ta page couverture, puis déjà, tu viens d'en vendre un minimum. Là.
Et ça peut paraître un petit peu macabre, mais il y a des gens qui collectionnent. Donc, à toutes les fois qu'ils sortent un ouvrage, ils vont l'acheter.
Pourquoi tu me regardes comme ça?
Mais non! Loin de mon intention. Et on a un livre historique ici.
Oui, ça, c'est un livre original, vraiment. Je ne sais pas si je peux le prendre.
Vas-y.
Ça date de 1922. C'est les statuts de Québec, les statuts refondus. C'est tout ce qui était loi et tout ça. C'est juste pour dire que dans celui-là, tout ce qui s'était passé dans l'affaire Blanche-Garneau, ça a remué beaucoup de choses, dont le statut des détectives privés qu'on a parlé tantôt, parce que...
Il y a un passage, si vous voulez, vous aventurer.
Oui.
On ne te le fera pas lire, mais
il y a un
passage dans ce livre-là officiel du gouvernement
où
on parle de Blanche Garneau.
Oui, on ne parle pas directement d'elle, mais c'est les conséquences vraiment. C'est la constitution vraiment du corps de police. Puis là, il y a un passage qui est vraiment tordant. C'est qu'on explique qu'est-ce que ça prend pour être policier. Si on compare avec les formations d'aujourd'hui qui ont des bacs en ci, des bacs en ça, bien dans ce temps-là, on s'aperçoit que finalement, il est engagé avec un minimum de grandeur, c'est tout.
Oui. Donc, merci, Éric. Merci de votre écoute et on se dit à la prochaine fois. Merci.
Chez Enviro Connexion, nous sommes fiers de nos employés et nous serions heureux de t'accueillir dans notre grande famille. Nous sommes leaders de la gestion de matières résiduelles et nous avons des postes à combler de conducteurs classe 1 et 3, opérateurs, mécaniciens et même journaliers et éboueurs dans nos différents terminaux. Le choix, tu en as chez Enviro Connexion. On t'invite à venir parler avec nos équipes de recrutement lors de notre grande journée porte ouverte dans une région près de chez toi, le samedi 30 avril entre 9h et 14h. À Granby, chez Sani Eco, au 530 rue Édouard. À Sherbrooke, chez Sally Estrie, au 405 Rodolphe Racine. À Boisbriand, chez Enviro Connexion, au 4141 Grande Allée. À Belleuil, au 1205 rue Louis Marchand. Et à notre terminal de Laval, au 4799 rue Bernard Lefebvre. Seulement des postes d'éboueurs sont disponibles en ce moment. Impossible de t'y rendre? Pas de problème. Visite notre site maroute.ca ou communique avec Annie au 438-221-8733. Au 438-221-8733. Enviro Connexion. Ma route, mon succès.
Le show à l'évêque. Truck Stop Québec.